parlé il y a fort longtemps, souviens-toi Jean-Luc, c'est de la question de la résilience. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Et puis j'ai fait plein de choses depuis et je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas mis en page parce que c'est quelque chose que j'avais travaillé du temps que j'étais formatrice avec mes étudiants infirmiers. Et je me suis dit, mais là il y a des ponts quoi, il y a des liens à faire avec la posture du chrétien. Donc c'est ce que j'ai à cœur de vous expliquer, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce matin. Puissiez-vous tous être bénis par ça, hein. Donc vas-y Monique. Résilience et foi, quelle compatibilité? Est-ce que c'est encore un concept purement humain, voire humaniste, ou est-ce que c'est quelque chose... Hein, où nous aussi, nous chrétiens, on peut y trouver notre compte. La résilience, c'est comment se développer et évoluer dans un environnement hostile. C'est ça, la résilience. On est résilient quand on a trouvé quelques clés pour se développer dans un environnement hostile. Donc on doit le concept en lui-même, on le doit à Boris Cyrulnik. Donc je vais vous parler un tout petit peu de Boris Cyrulnik parce que ça vaut le coup. Quand on voit le bonhomme que c'est. Donc il est neuropsychiatre, il avait plus de parents, il a été élevé par des parents d'adoption, on va dire, et il a quand même réussi à faire des études de médecin, puis de médecin spécialiste, et puis après de se spécialiser en neuropsychiatrie. Et il est aussi éthologue, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait des parallèles entre les comportements humains et les comportements animaux. Ce qui est quand même pas rien, quoi. Hein, et c'est pas de l'ésotérisme, c'est pas des trucs, vous voyez. Non, ça repose sur des choses scientifiquement avérées. Mais Cyrulnik, c'est pas que ça. Cyrulnik, c'est aussi un petit garçon juif. Un petit garçon juif qui a échappé à une rafle in extremis. Parce qu'en fait, on avait regroupé tous les juifs à un endroit, donc je ne sais plus dans quelle ville de France c'était, je ne sais pas si c'était sur Paris ou ailleurs, et pour appâter les enfants, on avait les nazis avaient mis des stocks de lait, des stocks de couvertures, donc tout naturellement, les enfants allaient vers le lait et les couvertures, vous imaginez bien, en période de disette, on aurait peut-être été tenté aussi d'aller vers le lait et les couvertures. Sauf que lui, ses antennes sont sorties. Il s'est faufilé parce qu'il était petit, et il est allé dans les toilettes. Et voyez, les toilettes sont quelquefois étroites, très étroites, c'était le cas. Et il est monté comme ça, les pieds d'un côté et le dos de l'autre. Il est monté, il s'est planqué dans les toilettes en attendant que ça se passe. En attendant que tout le monde soit embarqué dans les camions pour ne plus jamais revenir. Et il a réussi comme ça à se faufiler entre les bottes des nazis et à se sauver. Il avait 6 ans. C'est pas rien quand même, hein. Sa maman est morte en déportation, son père aussi. Il a été protégé par une institutrice qui l'a gardé tout un temps. Enfin voilà, c'est son histoire. Donc quand il parle de résilience, quand il parle d'environnement particulièrement hostile, on comprend que ça veut dire quelque chose. Donc ça me paraissait important quand même de vous présenter le personnage pour vous dire ça part pas de rien, quoi. Donc que nous dit Cyrulnik? Être résilient n'est pas être quelqu'un d'invulnérable. On n'est pas résilient quand on est invulnérable ou quand on se croit invulnérable. C'est pas non plus être un inconditionnel de l'optimisme, tout est beau, tout est rose, vous voyez. C'est apprendre à résister au traumatisme en faisant appel à la confiance qui est enfouie en nous. Et nous, chrétiens, on va dire à la confiance que le Seigneur met au fond de chacun de nous, hein, et qui tarde parfois à s'exprimer. C'est un refus de la fatalité du malheur. C'est apprendre à naviguer dans les torrents. Pour ça, je vous ai mis des petites images, parce que je suis très image. C'est apprendre à naviguer dans les torrents. Je suis allée une fois, j'avais 14 ans, dans un torrent, parce qu'on voulait faire les fous, on était en colo, on était contents, vous voyez. Eh ben, c'est dur, hein. Je peux vous dire que c'est dur, hein. Naviguer dans les torrents, c'est pas une mince affaire. Maintenant, à l'âge que j'ai, je crois que je n'essaierai même pas. Donc, capacité à se développer, à évoluer dans des conditions terriblement hostiles. Les conditions sont parfois hostiles dans notre vie. J'ai dit que j'ai une bonne nouvelle, Jésus est ressuscité. La nouvelle un peu plus difficile, c'est que les conditions terriblement hostiles, c'est déjà pour certains leur quotidien, hein, pour certains chrétiens sur la terre, ça va pas aller en s'arrangeant. Ça, c'est clair. Notre monde, et on en discutait hier avec mon fils, notre monde est en déperdition. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu d'où ça vient, ce concept de résilience. Au départ, c'est pas du tout quelque chose qui est psychique, hein. C'est quelque chose qu'on est allé chercher dans la physique des métaux. Il y a une application à l'informatique qui va beaucoup intéresser Michel, je suis sûre. Et il y a une application en sciences humaines et puis dans le comportement humain. Donc, en physique des métaux, c'est la résistance des métaux à des chocs très élevés et leur capacité d'absorber l'énergie cinétique. C'est tout simple, c'est l'énergie en mouvement. Et comment un métaux va supporter les coups? Ça, c'est pareil pour les câbles, mais je ne sais plus où mettre mes pieds. Donc, vous voyez, en physique des métaux, c'est ça. C'est comment le métaux en question va supporter les coups lancés, voyez, avec l'énergie en mouvement. En informatique, c'est la capacité du système à continuer à fonctionner en dépit d'anomalies, les fameuses anomalies système liées au défaut des éléments constitutifs. N'est-ce pas, Michel? Les machines qui marchent, malgré tout, en défaut des anomalies. J'étais sûre que ça allait parler à Michel, cette histoire-là. Voyez? Donc, c'est de la résilience, Michel. Ton ordinateur est résilient. Voilà. Et qu'en est-il pour l'être humain? Qu'est-ce que ça veut dire, pour l'être humain, que la résilience? C'est nager, nous dit Cyrulnik, et nager à contre-courant. Essayez, ça va être l'été, essayez, vous allez voir. C'est pas simple. C'est bientôt. C'est nager à contre-courant, c'est nager quand même. Et si on est tout seul à faire ça, et Joannette qui me dit, bah bien sûr, et moi je suis pas mieux, hein, je veux dire, nager à contre-courant, ça va cinq minutes. Donc, pour illustrer comment on va pouvoir nager à contre-courant, je vais vous présenter trois métaphores. Donc, les trois poupées plutôt, une première métaphore et une seconde métaphore. Les trois poupées d'Anthony, donc je ne vous présente pas l'auteur parce que ce serait long, mais c'est quelqu'un qui a fait des études aussi sur ce genre de sujet, hein. Qu'est-ce que la résilience? En prenant des exemples très concrets, vous allez comprendre. La première poupée, elle est en vert. La deuxième poupée, vas-y Monique. Donc là, c'est des jolis bébés de celluloïdes, mais elle peut être en celluloïde ou en plastique. Et la troisième poupée, c'est Robocop, elle est en acier. On va dire, tout le monde a envie d'être Robocop, hein. Elles vont recevoir, toutes les trois, un coup de marteau d'égale importance. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est simple. La première, elle est totalement brisée. Il n'en reste pas. La poupée de verre, il ne va pas en rester. La poupée de plastique, elle va garder des traces, c'est peu de le dire. Elle gardera des traces des coups, elle va être cabossée, on va la rabibocher, on va dire, on va la reconstruire, mais elle va garder des nions. Et la troisième, elle garde aucune trace. Méchant. Cette métaphore, attention, n'envisage que les coups et la manière dont la personne le reçoit. Et si on n'est pas vigilant, on pourrait se dire, attention là, hein, c'est seulement en fonction de ce que j'ai en moi, des ressources que j'ai en moi, que ça va faire la différence. Eh ben, pas du tout. La résilience, elle dépend aussi d'un autre élément qui est l'environnement. Donc Mancio, il a travaillé sur les questions d'Anthony, puis il s'est dit, attention, il manque quelque chose là. Il manque quelque chose. Donc, quels sont les facteurs de risque? Dans quel environnement j'ai grandi? Dans quel environnement j'ai évolué? Et quels sont mes facteurs de protection actuels, en interne et en externe? Comment je suis entourée aussi? Donc si on laisse tomber une poupée, elle va se briser, on l'a dit. plus ou moins facilement. En fonction de la force du jet, est-ce que le coup dur que j'ai subi, c'est par négligence, par erreur? Est-ce que c'est une agression volontaire? Ce ne sera pas la même chose. Ça sera clairement pas la même chose. Vas-y, Monique. Négligence ou agression? Ça ne va pas résonner pareil en nous, voyez? Ensuite, en fonction de la nature du sol, c'est-à-dire sur quoi on va être posé. Est-ce qu'on va tomber sur du béton ou est-ce qu'on va tomber sur quelque chose de souple, sur de la moquette? Est-ce que l'église dans laquelle on est, ça va être du béton pour celui qui tombe ou est-ce que ça va être quelque chose de souple? C'est une vraie question. Voyez, il y a les capacités internes de l'individu et puis il y a aussi l'environnement. Ça va bien sûr dépendre du matériau dont on est constitué. Est-ce qu'au départ on est du verre? Le Seigneur n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu te briserais, il a dit passons à l'autre bord. Donc si on te fait croire que tu es en verre, écoute pas ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge de l'ennemi. Faites attention à ces petites voix qui ne sont pas la voix de Dieu. Tu n'es pas en verre, parce que le Seigneur il n'a pas décrété comme ça sur ta vie. Parce qu'évidemment, si tu es en verre, c'est terminé, quoi, tu es broyé. Seigneur, n'accepte pas, ne touchez pas à mes oints, dit l'Éternel. Le Seigneur n'accepte pas qu'on soit broyé par les coups durs de la vie. Robocop ou l'armure du chrétien? Attention à ce que cette armure soit pas non plus l'armure prétexte. Moi j'ai le bouclier, moi je suis fort. Voyez, tension danger quoi, tension danger. Bien sûr que le Seigneur veut nous armer. Et s'il a, il a décrit dans le détail le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, les sandales pour annoncer l'évangile, c'est pas pour rien. Il y avait derrière ça, il y avait la notion de protection aussi qui était importante de la part du Seigneur. Mais que dit le Seigneur aussi dans 1 Corinthiens 10, 12? Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et j'ai relevé un écrit de Spurgeon. Donc Spurgeon, c'est un auteur qui fait référence dans le domaine de l'Église protestante, qui nous dit ceci: c'est un fait étrange qu'un homme fier de la grâce reçue puisse dire « J'ai une grande foi, je ne tomberai jamais. Une pauvre petite foi le peut, mais pas la mienne. J'ai un ardent amour, dit un autre, je peux tenir, il n'y a pas de danger que je m'égare. Celui qui se glorifie de la grâce est présomptueux de s'en glorifier ainsi. T'es pas à l'abri de te prendre un revers. » Ceux qui ont un tel comportement s'imaginent que leur grâce, au pluriel, peuvent les garder, ne sachant pas que le torrent doit couler constamment de la source, ou encore que le ruisseau sera bientôt à sec. Danger, danger, danger. Si un torrent continuel d'huile ne vient à la lampe, même si aujourd'hui elle éclaire avec éclat, elle fumera demain et son odeur sera désagréable. Donc vous voyez, on a une vraie responsabilité. Il ne faut pas faire comme si on n'avait pas, tu peux revenir en arrière, l'armure du chrétien, il ne faut pas faire comme si elle n'existait pas, elle existe. Mais attention, attention, à toujours rester centré sur l'essentiel, à rester branché sur la source. Faute de quoi, ni vous ni moi, et je le dis pour moi, hein, tout ce que je vous dis là, je le dis pour moi, parce que le Seigneur me l'a dit à moi en premier, attention. Reste connecté, parce que sinon tu vas au-devant de bien des déconvenus. Donc, vas-y, quand est-ce qu'on peut parler de résilience? Quand il y a interaction entre l'individu, ses ressources propres, son environnement. Là, la résilience, elle va se manifester ou pas. L'individu, ses propres ressources, et le Seigneur a mis en vous des trésors. Hein, de temps en temps, comme dit Cyrulnik, ça tarde à venir à la surface, mais c'est là le Seigneur l'a mis. Une petite parenthèse quand même. Un environnement social favorable, tout va bien, un enfant qui a été élevé dans des bonnes conditions, sans jamais de couac et tout ça, ça n'occasionne pas systématiquement la résilience. Et un environnement particulièrement défavorable, ça ne veut pas dire non plus que la personne ne va pas être résiliente. Et là, il y a une étude qui a été faite par une dame qui s'appelle Weber, qui a travaillé 30 ans sur la question et qui a montré que des enfants qui avaient un environnement particulièrement défavorable étaient au contraire résilients. Et là, moi, je dis, ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur a su protéger. Il est le Dieu des orphelins. Vous vous souvenez d'avoir lu ça ? Il est le Dieu des orphelins. Les enfants qui n'ont pas eu la chance d'être pris dans les bras, il est leur père. De même, l'intensité du traumatisme face aux épreuves de la vie ne peut pas non plus être mise en parallèle avec ce qu'on va faire de cette épreuve. Tous, ici, on a tous eu des épreuves. Montrez-moi, levez la main celui qui n'en a jamais eu. Voilà, c'est clair. On a tous eu nos coups durs. Après, il y a la manière de les vivre. D'accord ? Donc l'intensité du traumatisme, ça peut être particulièrement violent et on dit, tu peux revenir en arrière ? Moi je pourrais pas supporter ça. Il y a des choses, moi je me dis c'est épouvantable, quoi. Moi je peux pas ça. Mais ce que toi tu peux supporter, l'autre peut pas le supporter et inversement. Et le Seigneur a dit qu'il ne permettrait pas que tu vives une épreuve qui soit au-delà de tes forces. Donc c'est dans la parole de Dieu, ça veut dire que c'est vrai. Donc là, tu peux essayer d'ouvrir le lien hypertexte. La petite zone bleue, tu cliques dessus. Donc, un chrétien résilient. Moi, je suis allée voir dans la parole de Dieu et Naomi dormait une heure, donc ça m'a rendu service pour aller chercher dans la parole de Dieu ce que ça pouvait bien être qu'un chrétien résilient. D'abord, il faut qu'il y ait un traumatisme. On en a tous vécu. On a vécu des choses qui étaient vraiment, je dirais, c'est en dessous de tout, d'accord ? Que dit la parole de Dieu ? Matthieu 18, verset 5, « Il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Malheur à celui par qui le scandale arrive. » Une autre version nous dit « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. » Allez comprendre. En quoi ça peut bien être nécessaire quelque chose d'aussi négatif ? Et pourtant, ça veut dire quoi ? En substance, ça veut dire que Dieu contrôle tout, même ça. Même ça ! Dieu contrôle même quand les choses sont particulièrement violentes. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Et ensuite, le Seigneur m'a conduit dans le psaume 73 au verset 21. Donc, tu peux dérouler un peu plus loin. Spurgeon, je vous l'ai dit. Parce que je me dis, quand même, Seigneur, quand même, comment ça se fait qu'on doit vivre des choses comme ça ? Que ce soit dans nos milieux familiaux, dans nos milieux professionnels et dans l'Église. Et dans l'Église, on l'a dit dimanche dernier, ça m'a énormément interpellée. Onction égale confrontation. Onction égale confrontation. Voilà, tu peux aller un petit peu plus loin. Voilà. Et le Seigneur m'a conduit dans le psaume 73. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Quand je me ronge, voyez, quand je me bouffe de l'intérieur en disant « ça va quoi, ça suffit ». Ça ne devrait pas, il faudrait pas. Dans l'église, on ne doit pas voir. Ouais, mais les hommes sont des hommes, puis c'est comme ça. Oui, Dieu est bon pour Israël, Dieu est bon pour ses enfants, pour ceux qui ont le cœur pur, ceux qui viennent à lui comme ils sont, pas en pensant qu'ils sont parfaits. Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Lorsque mon cœur s'est grissé, que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide, sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur ? On s'est pris des coups. Je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi ? Ma chair et mon cœur peuvent bien se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu as néanti tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu et qu'il n'y en aura pas dans l'avenir. Mais moi, je place ma confiance en toi, Seigneur, afin de raconter toutes tes œuvres. Et d'être témoin, on va le voir un peu après, c'est pas rien et c'est vraiment une urgence. Le Seigneur m'a dit, mais va voir un peu ce que le Seigneur Jésus a dit, les paroles de Jésus. Il faut vraiment les recueillir, ces paroles de Jésus, aller y puiser le plus souvent possible. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Il y avait une première manière de faire, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as fait une crasse, attends, je ne vais pas te rater. C'est ça la loi du talion. Hein. Mais moi, je vous dis. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Vous savez faire ça ? Sans la grâce, c'est pas possible. Mais avec la grâce, c'est possible. Et le pardon, avec la grâce, est possible aussi. Ça prend des fois longtemps. C'est tout un travail, mais c'est le Seigneur qui travaille nos cœurs. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent, pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils du Père dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et quand il nous dit ça au départ, moi je me dis, évangile, ça veut dire bonne nouvelle, elle est où la bonne nouvelle ? Elle est où la bonne nouvelle ? Est-ce que c'est praticable ? Est-ce que c'est possible ? Je me dis, ouais, mais ça c'est la nouvelle alliance, c'est le Seigneur qui le fait, c'est pas moi, pas vrai, pas vrai. Vous voyez dans le livre d'Exode déjà, où le Seigneur dit, si le bœuf ou l'âne de ton ennemi est tombé, tu vas aller le rechercher. Pas parce que tu as pitié de la bête, hein, parce que le Seigneur te l'a dit, c'est un commandement de Dieu. Et dans les Proverbes, au Proverbe 25, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. C'est comme de mettre un feu sur la tête des gens. Vous vous rendez compte un peu que de répondre au mal par le bien. Très honnêtement et très humblement, moi si le Seigneur me le donne pas, je dis Seigneur ça je l'ai pas en magasin. Moi je peux pas. Et pourtant l'évangile veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle, donc ça veut dire que c'est possible. C'est possible si c'est vraiment passé au creuset du Seigneur, si c'est vraiment lui qui agit en nous. C'est une bonne nouvelle parce que Jésus m'a sauvé. Donc, s'il m'a sauvé, il m'a transformé aussi et tout est possible. C'est une bonne nouvelle aussi parce que Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Dieu te dit pas de faire les choses parce qu'il faut les faire, parce que tu dois. Moi, je sais que dans mon enfance, on m'a dit, c'est toi qui dois faire parce que c'est toi qui es chrétienne. Ah bon ? Ouf, c'est lourd ça, c'est lourd. C'est lourd et c'est un manteau religieux qui pèse une tonne, qu'on vous met sur les épaules, il faut que tu le fasses, tu dois. Vous voyez ? C'est lourd et c'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, tu peux le faire parce que c'est moi qui agis au travers de toi. Dieu suscite en nous le vouloir et le faire. Vous vous souvenez d'avoir lu ça dans la parole de Dieu ? C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Si tu cherches au fond de toi-même pour faire les choses, tu vas pas y arriver. Par contre, si tu dis, Seigneur, ça je te le remets, là ça va devenir possible. Voyez le lien avec la résilience ? soit tu es complètement déglingué, désingué, diraient les jeunes. Soit tu as placé, tu as pivoté au niveau de ton regard, tu as placé ta confiance, pas dans les hommes, tu as placé ta confiance dans le Seigneur et tout change. Et ce qui t'est impossible à toi, le Seigneur peut le faire. Qu'est-ce qu'il nous dit en termes de justice, notre Dieu ? Faut prendre la parole dans son entier. Faut pas. Il a été dit, mais moi je vous dis. Il a été dit, aimez vos amis et maudissez vos ennemis. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Mais il est aussi écrit au psaume 37, encore un peu de temps et le méchant n'est plus. C'est aussi sérieux, c'est aussi sévère et c'est aussi dans la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire que c'est vrai. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. J'étais jeune, nous dit le psalmiste, et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je n'ai pas vu le juste abandonné. Il ne nous abandonne jamais. Jamais, jamais, jamais. Moi, j'ai eu des... Ce serait long hein, de vous faire vous raconter mon témoignage, mais je me suis retrouvée sans rien. Sans rien. Je n'ai jamais manqué de quoi que ce soit. Merci Seigneur. Ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, ceux qu'il maudit sont retranchés. C'est très sérieux, c'est très sévère. L'Éternel affermit les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix s'il tombe. Il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Donc, excite l'évangile en petits bouts, excite l'évangile du renoncement exclusif. C'est pas l'évangile pur, ça. C'est une partie. C'est vrai que c'est écrit, mais attention. Il est écrit « Bénissez vos ennemis », mais il est écrit aussi que tu es loin de l'Éternel, avec l'onction. « Ne touchez pas à mes oints, dit l'Éternel. Ne touchez pas à ceux que j'ai oints. » Parce que sinon, il va vous en cuire. C'est ça que ça veut dire. Si tu dois toujours t'humilier, ne jamais rien réclamer, surtout pas la justice, si tu dois faire parce que t'es chrétien, c'est pas l'évangile pur. Que dit le Seigneur dans le Nouveau Testament, Hébreux 10, verset 30, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. Te venge pas toi-même, tu vas te faire du mal et tu vas faire du mal autour de toi. » Laisse la colère, psaume 37, « Abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Seigneur, demande pas qu'on soit des gens belliqueux et en rage. Avec la niaque, vous voyez, on est en rage. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Donc, quelques petits points pour faire le lien avec la résilience avant de revenir sur le PowerPoint. Comment être un chrétien résilient ? Donc, je vous ai décliné plusieurs étapes, très simples. Première étape, importante, à ne pas négliger. Pas dire, mais non, t'inquiète pas, fais comme si t'avais pas vu, t'avais pas entendu. Non. Ne pas faire comme si. Ne pas porter de masque, parce que ça va être un masque de circonstance, ça va être un masque religieux. Ne fais pas semblant. Le Seigneur nous a appelés à être sincères, des cœurs purs, qu'on puisse voir dans ton regard que c'est de la sincérité qui passe. Vous savez que le langage du corps, c'est 80% de la communication. C'est intéressant quand même, hein. Tu vas aller, bravo mon frère, tu vas aller saluer le frère, puis en fait, tu enrages, quoi. Ben non, non. Parce que tout en toi va transpirer que c'est pas juste et que c'est pas vrai. Que c'est pas bon. Voyez? Ne fais pas semblant. Fais pas comme si c'était rien passé, c'est pas vrai, il s'est passé quelque chose. Deuxième point, reconnais pour toi-même, ce que tu as vécu comme l'ayant vécu. C'est du réel. L'erreur pour une erreur. La cruauté, faut l'appeler par son nom, c'est de la cruauté. Ça peut être de la cruauté mentale. Ça peut être tout type de cruauté. L'abus, abus financier, abus de toutes sortes. Abus parce qu'on t'a plumé comme un pigeon, vous voyez, et dans les églises même, on s'est fait plumer. Si, moi j'ai vécu jeune dans une église qui tournait à la secte et je me suis fait plumer comme un pigeon. C'est clair. C'est pas pour autant que je suis pas là devant vous et que le Seigneur m'a pas tenu. Je suis pas une poupée de verre. Je me suis pas écrabouillée, pas parce que j'ai de la force, j'en ai pas, mais parce que le Seigneur m'aime. Et ça, pour moi, c'est ma ferme assurance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, hein, son Fils, afin que Sandrine, Rémi, Michel, Odile, Odette, quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc reconnais ce que tu as vécu comme l'ayant vécu, puis c'est tout quoi. L'abus pour ce qu'il est, sinon comment tu vas pouvoir déposer tes fardeaux si tu les reconnais pas? Comment tu vas pouvoir les apporter au pied de la croix si on te dit non, 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 fais comme si rien ne s'était passé? Non, ça c'est du mensonge. Et ça c'est une manière, voyez, on reconnaît un peu la signature louvoyeuse. C'est du mensonge. Mais attention, une fois que tu as fait les choses, une fois que tu as déposé les choses, attention, il y a une autre étape. Ne chéris pas tes souffrances. Ne les chouchoute pas. Ne chouchoute pas tes souvenirs, tes mauvais souvenirs, aussi mauvais soient-ils. Il y a des gens qui sont incapables de résilience parce qu'ils chouchoutent leur misère. Il y a des gens qui restent dans des deuils pathologiques. Alors ça peut être le deuil de quelqu'un. Ça peut être le deuil d'une situation, le deuil d'un amour perdu. Ça peut être le deuil d'une église dans laquelle on n'a pas trouvé son compte. Et ils chouchoutent leur misère. Voyez ? Tu déposes ton fardeau. Une fois que c'est déposé, point barre, quoi. Tu passes à autre chose, c'est bon. Le Seigneur t'a pas appelé à être dans la misère et dans la tristesse toute ta vie. C'est pas vrai. Ça aussi, c'est du mensonge de l'ennemi. Attention à tous ces mensonges. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le malin. Mais faut pas non plus le mettre plus haut qu'il n'est, hein. Si on fait les choses comme le Seigneur les veut, on dépose et on avance. Puise en toi ce que Dieu a placé. Vous savez, ces facultés internes qui tardent de temps en temps à revenir à la surface, et ce qu'a très bien compris Boris Cyrulnik. Il y a en toi de la résilience, le Seigneur l'a mis, cette résilience, au fond de toi. Il faut aller la chercher. Tu es aux manettes, hein, attention, hein, le Seigneur ne fait pas de nous des robots. Hein. Il demande aussi qu'on se mette en marche. Il demande à ce qu'on avance comme lui a voulu qu'on avance. Puise en toi ce que le Seigneur a placé, une vraie pulsion de vie. Et des chrétiens qui font toujours la gueule, il y a un problème. Qui sont toujours tinistes, il y a un problème. Bon, on n'est pas tout le temps non plus rigolard, frontal, tout est beau, tout est rose. Mais je veux dire, si toute notre vie, on est toujours triste, toujours, il y a toujours un truc, c'est le verre à moitié vide, quoi. Eh ben moi, j'ai envie d'avoir mon verre, même pas à moitié plein, bien plein. Voyez ? Soyez remplis de toute la puissance de l'Esprit et même jusqu'à être enivrés du Saint-Esprit. Ça fait une belle différence. Hein. Une vraie pulsion de vie, un vrai désir d'avancer et le troisième volet et pas des moindres, la capacité à saisir l'urgence. Et l'urgence, on la trouve dans Jean 17, dans la prière de Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Donc, nous, chrétiens, je dirais que chrétien et résilient, ça serait presque un pléonasme, voyez. Si tu es chrétien, ça veut dire que le Seigneur, il a fait de toi quelqu'un qui va pas être démoli dans la vie, qu'on ne peut pas détruire. Puisqu'il t'a donné la vie éternelle, il t'a donné la capacité d'aller de l'avant. Voyez ? Tu as ça au fond de toi, il faut juste que tu ailles le chercher. Il faut juste que tu le mettes en marche. Alors pas avec tes forces, attention, hein. Pas avec tes forces, sinon tu vas te casser les dents. Je sais, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je sais, je suis pas une enfant gaie au départ, je suis une enfant triste. Donc quand je vous dis tout ça, je le dis à moi, hein. Moi je suis une enfant triste au départ. Le Seigneur a mis quand même sur ma vie de la louange et puis ce désir d'aller à la source. Ce désir d'aller à la source. Et c'est à ça que je vais vous appeler ce matin. Allez voir à la source, vous allez voir, ça change tout. Donc le chrétien résilient ne ment pas. Quand on ne veut pas mentir, la première des démarches est de ne pas se mentir à soi-même. Si tu ne veux pas mentir autour de toi, commence par toi. Ne te mens pas à toi-même. Compte sur le Seigneur, pas sur tes forces. Et le psaume 130 nous dit « Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. » Plus que les gardes ne comptent sur le matin, c'est répété deux fois. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des nuits, moi j'en ai fait, mais je peux vous dire que quand les oiseaux commencent à chanter, que le soleil se lève, ça fait du bien. Ça fait du bien quand ça s'arrête, voyez. Plus que les gardes ne comptent sur le matin. Moi je compte sur le Seigneur, je compte sur le Seigneur aussi pour vous, pour que toute cette résilience qui est là, au fond de vous, elle soit maintenant attisée, voyez, que vous la mettiez en marche. Donc, tu peux revenir sur le PowerPoint. Donc, diapo suivante. Donc, la résilience est bien plus dépendante de la faculté du sujet à mobiliser ses capacités, capacité à se ressaisir, parce que quand on se prend des claques, au départ on pleure, hein. Ou alors c'est que vraiment on fait le gros dur, quoi, hein. Capacité à se ressaisir, parce que des coups durs on en aura encore, capacité à se reconstruire. Oui, donc se ressaisir c'est ça aussi, hein. Se ressaisir c'est se réapproprier sa propre réaction sans être seulement, vas-y Monique, sujet subissant. Si vous êtes quelqu'un qui subit la vie, vous ne vivez pas votre vie. Se ressaisir, c'est ça. C'est se réapproprier sa propre histoire, sa propre réaction. Se reconstruire, Annette nous disait rebondir, oui, bien sûr que c'est rebondir. Se reconstruire, c'est construire à nouveau. C'est construire, mais pas pareil. C'est construire autrement. C'est partir dans une autre direction. Et c'est surtout réinventer un autrement possible. Sinon, on reste coincé, voyez, dans un espace-temps où le Seigneur ne veut pas, quoi. Dans notre histoire passée, dans nos misères passées. C'est pas là qu'est notre place. Notre place, elle est avec le Seigneur pour aller de l'avant. Donc, Cyrulnik nous dit qu'il faut que le sujet réalise un remaniement émotionnel. Tout ça, c'est du discours de neuropsie, hein. Mais quand même, c'est intéressant à découvrir. C'est vraiment remanier dans notre tête l'idée qu'on se fait de la blessure. C'est vivre avec, parce que de toute façon ça existait. Cyrulnik, il a perdu sa mère dans les camps de concentration, il ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et même si nous, on n'a pas vécu ça dans notre histoire, on a eu des pertes aussi, des pertes lourdes, douloureuses. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, mais c'est vivre autrement. Donc, l'environnement, le succès, oui, reviens en arrière un tout petit peu, voilà, le succès, la vitrine sociale, les winners, vous savez, c'est pas forcément le reflet de la résilience, pas forcément, il y a des gens, et on le voit chez les intellectuels, qui sont tellement dans la souffrance que s'ils lèvent leur nez de leur bouquin, c'est insupportable. C'est insupportable. Et vous avez des gens comme ça qui travaillent, moi j'en ai dans mon entourage, des médecins qui travaillent des 50, 60 heures. Parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils réfléchissent, quoi, voyez, il faut qu'ils soient dans leur trip technique et tout ça. Mais si jamais ils réfléchissent, je fais, mais pourquoi je le fais, alors là ça devient invivable, quoi. Mais nous, enfants de Dieu, notre repos, il est dans le Seigneur. Il est dans le Seigneur. C'est pas un gros mot, se reposer, parce qu'on compte sur lui. Et faites attention, parce que quelquefois, on a tendance aussi, même dans nos milieux, à considérer les gens en fonction de la vitrine. Les grands ministères, les grands ceci, les grands cela. Moi, je veux être le petit enfant de Dieu. Ça, c'est ma prétention à moi, de rester le petit enfant de mon Père. Et vous savez pourquoi ? parce que même si j'aime énormément mon père qui est parti, mon père n'a jamais reçu de tendresse et n'a jamais su en donner à ses 7 enfants. Et j'ai eu une bise de mon père quand j'étais enceinte de ma fille qui va avoir 16 ans. Une de toute ma vie. Ça fait pas beaucoup. Et quand on a 35 ans, c'est pas comment le prendre, quoi. C'est pas par quel bout le prendre. Mais moi, je veux rester, vous voyez. Je m'en fous de la vitrine sociale. C'est un peu cru, hein, la manière dont je vous dis les choses. Mais je veux rester le petit enfant chéri de mon papa. De mon papa du ciel. Abba Père, je veux être à toi seulement et ma volonté soumettre à toi constamment. Moi, je veux être cet enfant-là. Donc, attention au bling-bling. On sort d'en prendre, hein, c'est bon. L'environnement, pour nous, ça va être notre église. Un environnement familial résilient. Accueille la blessure de l'autre. Une église résiliente va accueillir la blessure sans la minimiser, sans dire n'y pense plus. Parce que là, on est dans le mensonge, tension, danger. Sans jugement, tu dois faire ci, tu dois pas faire ça. Sans culpabiliser par la souffrance qu'il génère. Faut pas culpabiliser ton frère ou ta sœur quand ils viennent te dire quelque chose. Et il y a une phrase, il y a des phrases comme ça qui sont mortifères. Je me mets à ta place. Oh ouais, je me mets à ta place. Bah, si tu te mets à sa place, il n'y en a plus de place pour lui. Fin de l'histoire. Voyez ? On ne se rend pas compte, hein, quelquefois, mais il y a des choses comme ça qui sont... Faut faire attention. Donc, il faut qu'on fasse une équipe. Si au sein d'une équipe, je vous montre une équipe d'ouvriers, voyez, des gens qui travaillent ensemble. S'il y en a un qui bosse solo, ça ne va pas le faire. Il va y avoir des erreurs, il va y avoir des manques, il va y avoir des oublis. Ça peut être dangereux quand on construit un édifice, par exemple. Si au sein d'une équipe, chacun accepte d'être qui il est, comme il est, quel que soit son vécu, sa propre souffrance. Si au sein d'une équipe, chacun accepte qu'il a besoin des autres, que rien n'est jamais acquis, que la fragilité de l'être humain que nous sommes, c'est aussi notre force. C'est quand je suis faible que je suis fort. Vous vous souvenez de ça ? C'est quand je suis faible que je suis fort. Et le Seigneur n'a pas choisi les choses fortes du monde, les choses impressionnantes du monde. Il a choisi les petites gens, les petites choses. Et il a fait quoi ? Il a fait qu'au bout de 2000 ans, on parle encore de la bonne nouvelle. Au bout de 2000 ans, tout a été fait pour que les chrétiens se taisent. Tout a été fait pour que les chrétiens soient anéantis. On est toujours là. Rien n'est jamais acquis. La fragilité de l'être humain, c'est aussi sa force. Et pour terminer, on va finir sur une petite métaphore que j'aime bien. C'est la métaphore des cailloux que Cyrulnik a développée. Donc, vas-y. Un voyageur croise la route d'un homme qui casse des cailloux à grands coups de maillet. Son visage exprime le malheur, ses gestes la rage. Monsieur, que faites-vous ? Vous le voyez bien, je n'ai trouvé que ce métier stupide et douloureux. Un peu plus loin, le voyageur croise un autre homme qui casse des cailloux, mais son visage est calme, ses gestes harmonieux. « Monsieur, que faites-vous ? » « Eh bien, je gagne ma vie grâce à ce métier fatigant, mais il a l'avantage d'être au plein air. Le verre à moitié plein. C'est pas top ce que je fais, mais au moins, je respire. » Et enfin, et ça franchement, c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, un troisième homme qui casse des cailloux, son visage irradie de bonheur. Il sourit, il regarde avec plaisir les éclats de pierre. Il tape aussi fort que les autres, hein. Il y a le même maillet, hein. Il n'y a pas de système électronique pour faire à sa place. Hein. Monsieur, que faites-vous ? Moi, répond cet homme, je bâtis une cathédrale. Donc puissions-nous bâtir des cathédrales, hein, puissions-nous prendre plaisir, la notion de plaisir à faire ce qu'on fait, voyez. Ça, c'est une vraie richesse. Ça, c'est vraiment ce que le Seigneur peut mettre dans notre histoire, dans notre engagement dans l'Église, dans nos engagements professionnels, familiaux, tout ce que vous voulez. Puissiez-vous, et j'en termine là-dessus, puissiez-vous, dans vos vies, bâtir des cathédrales. Voilà. Merci à tous.